Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Quelle politique d'immigration pour la France après l'Assemblée nationale la semaine dernière? Une déclaration du gouvernement avant un débat sans vote aura lieu cet après-midi au Sénat. Notre invité sera le président de la CIMADE, Henri Masson. L'exécution de manifestants ne peut tenir de réponse aux manifestations en cours en Iran. Déclaration du ministère français des Affaires étrangères après la pendaison publique hier d'un homme condamné en lien avec la contestation en Iran. L'armée israélienne reconnaît avoir tué une adolescente palestinienne lors d'un raid à Jenin en Cisjordanie occupée. Une conférence d'aide à l'Ukraine se tient aujourd'hui à Paris. La France entend mieux coordonner l'aide d'urgence apportée au pays. Cela faisait hier 17 ans l'assassinat du journaliste et député de Beyrouth, Gebran Tweni, lors d'un attentat à la voiture piégée dans la capitale libanaise. Nous écouterons Randa Takiedine, journaliste franco-libanaise. Argentine-Croatie, première demi-finale du mondial, ce soir à 20h et demain soir, la France jouera face au Maroc pour une place en finale. Pour la France, l'exécution de manifestants ne peut tenir lieu de réponse aux manifestations en cours en Iran. Une déclaration hier du ministère français des Affaires étrangères, c'était après la pendaison publique d'un homme condamné en lien avec la contestation en Iran. Un jeune homme de 23 ans qui est la deuxième personne exécutée depuis le début des manifestations qui ébranlent le pays depuis 3 mois et le premier publiquement. L'armée israélienne reconnaît avoir tué une adolescente palestinienne lors d'un raid à Jenin en Cisjordanie occupée. L'armée qui parle de tirs non intentionnels des soldats visant des hommes armés sur un toit dans ce secteur. L'oncle de la victime, âgé de 16 ans, souligne qu'elle a été touchée à la tête, au visage et 2 fois dans la poitrine. Le futur projet de loi sur l'immigration présenté au début de l'année prochaine en France, une déclaration du gouvernement avant un débat sans vote aura lieu cet après-midi au Sénat. La première ministre a dévoilé mardi dernier à l'Assemblée nationale les grandes lignes de ce texte. Elisabeth Borne estime que l'immigration zéro n'est ni souhaitable ni possible, pas plus réaliste que ne l'est une immigration dérégulée. La première ministre qui souhaite allier fermeté et humanité. Le président de la CIMADE, Henri Masson.
Je pense que c'est relativement à tort, en tous les cas pour le deuxième terme, qui est l'humanité. Je voudrais d'abord souligner qu'il avait été prévu par Madame la Première Ministre une période de concertation avec les associations. Nous avons observé et nous avons participé personnellement à 2 tables rondes de la CIMADE qui réunissaient d'autres opérateurs dans ce secteur, ce que nous ne sommes pas. Et en fait, ce n'ont pas été des séances de concertation partenariale, comme cela a été indiqué dans la lettre que le ministre de l'Intérieur nous avait adressée pour lancer cette opération. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça d'autant plus dommage que, allez, 48 heures avant la première table ronde, Monsieur Darmanin avait signé une circulaire à destination des préfets rendant encore plus dramatique et sévère l'attribution d'obligations de quitter le territoire français pour les étrangers. Et que, pour le coup, cela aurait pu être, par exemple, un sujet de discussion au cours de ces tables rondes, et bien entendu, ça ne l'a pas été. Alors, qu'en est-il du projet de loi dont seules les grandes lignes sont effectivement présentées? Or, le diable, comme on dit, se cache dans les détails. Donc, il va falloir être très attentif et très prudent. Et très clairement, se posent déjà quelques questions. La première, c'est que c'est le énième, voire le 20e projet de loi depuis une quinzaine d'années environ.
Et le dernier date de 2018.
Voilà, et le dernier, comme vous l'indiquez, date de 2018. Je rappelle d'ailleurs que lorsque le projet de loi de 2018 avait été présenté au Conseil d'État, le Conseil avait fait remarquer que oui, il y avait des choses qui étaient pas mal, mais que quand même il s'inquiétait du fait que l'on proposa un nouveau texte de loi au vote du Parlement, alors même que l'on n'avait pas étudié les conséquences des précédents textes de loi. Et je pense que le Conseil d'État, n'est-ce pas, aura assez de mémoire pour faire le même type de remarques.
Concernant les grandes orientations de ce projet, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre regard sur cela et notamment le fait que l'immigration de travail soit favorisée et que ce projet de loi a pour ambition de mieux intégrer et de mieux expulser, selon les mots employés par le ministre de l'Intérieur?
Mieux expulser, ça c'est tout à fait évident, puisque effectivement dans ce projet tel qu'il nous est présenté en l'état, hein, l'objectif est de multiplier les obligations de quitter le territoire français, effectivement. Or, l'un des critères qui est regardé en particulier par la droite et l'extrême droite, c'est le principe d'exécution de ces obligations de quitter le territoire français. Or, cet indicateur, c'est en fait un rapport entre un numérateur et un dénominateur. Le numérateur, c'est le nombre d'expulsions. Le dénominateur, c'est le nombre d'OQTF. Plus vous augmentez le nombre d'OQTF, sachant qu'il y a des contraintes qui ne dépendent pas du gouvernement, qui dépendent en particulier des pays qui doivent accorder des certificats de passage, eh bien, plus vous augmentez le nombre d'obligations de quitter du territoire français et plus vous diminuez le taux de réalisation effectivement de ces OQTF. Et du même coup, je dirais que le gouvernement est en train de monter une machine qui lui offre un piège dans lequel il risque de tomber s'il n'y prend pas garde. Et la deuxième remarque que l'on peut faire, c'est que effectivement, le droit des toutes personnes qui arrivent sur le territoire français doit être totalement respecté. Et qu'en particulier, toute personne a le droit de faire effectivement des recours contre des décisions administratives et que les règles du droit s'appliquent totalement et effectivement. Nous sommes très inquiets en particulier sur le fait que la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, qui est l'instance de recours lorsque un asile est refusé à quelqu'un, nous sommes très inquiets par le fait que la CNDA devait être délocalisée. Très inquiets parce qu'il y a des problèmes d'interprétariat. Et donc il va falloir trouver des interprètes partout où il y aura des antennes dans les régions et les départements. Très inquiets parce que les personnes, les experts qui connaissent les situations précises dans lesquelles se trouvent les pays d'où proviennent les personnes qui demandent l'asile, ces experts, il n'y en a pas des quantités énormes et qu'il n'y en aura pas dans chaque région ou dans chaque département. Donc, ce sera extrêmement nécessaire d'être prudent et être attentif. Et d'ailleurs, je crois savoir que même des membres de la CNDA sont très soucieux de défendre l'unité du travail qui est fait par cette Cour. Donc, il y en aurait bien d'autres sujets, effectivement, de préoccupation. Moi, je pense que la chose la principale, c'est effectivement d'attendre au début du mois de janvier le dépôt de ce projet, d'examiner précisément toutes les mesures qui seront proposées et d'ici là, d'attirer l'attention des parlementaires, membres de l'Assemblée nationale, députés et aussi sénateurs, pour leur montrer les risques de certaines des décisions qui pourraient leur être proposées. En ce qui concerne le thème que vous avez évoqué, c'est-à-dire l'intégration par le travail, je serais tenté de dire que ça fait longtemps que nous savons tous que beaucoup d'activités qui aujourd'hui ne sont pas remplies par des Français autochtones parce qu'ils ne veulent plus aller dans ces métiers sont remplies par des personnes sans papier, que l'État lui-même est un employeur de personnes sans papier. Et qu'en conséquence de quoi, il est grand temps de régulariser ces personnes. Mais là encore, attention à ce que nous appelons une immigration choisie, qui nous permettrait effectivement de retenir des personnes dont nous avons besoin, alors dans la restauration, dans la santé, éventuellement dans l'éducation, dans l'accompagnement des personnes âgées et des enfants, et de laisser de côté toute une série de personnes d'une part et de les renvoyer chez elles, ou bien de pomper dans des pays qui en ont besoin, des personnes dont nous aurions besoin, dans une forme d'immigration choisie, qui ne permet pas à ce moment-là aux pays dont ils sont originaires, effectivement, de pouvoir se développer comme cela est nécessaire. C'est donc une très grande transformation du point de vue du rôle de l'immigration dans notre pays et de la vocation de ces migrations à faire évoluer le monde, puisque en particulier la France est un pays d'immigration, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, son histoire a été aussi construite par des personnes étrangères. C'est donc un nouveau regard que nous allons éviter pendant ces quelques semaines, voire quelques mois de la présentation du projet de loi jusqu'au vote. Nous allons inviter les députés et les sénateurs, effectivement, à imaginer avec nous d'autres conceptions de la manière dont nous devons accueillir les personnes étrangères dans notre pays. C'est un immense chantier. Vous n'avez pas besoin de le souligner, nous en sommes bien convaincus.
Henri Masson, le président de la CIMAD. L'organisation État islamique a revendiqué une attaque meurtrière survenue hier contre un hôtel de la capitale afghane, hôtel fréquenté par des hommes d'affaires chinois. L'attaque a fait au moins 3 morts. Des témoins disent avoir entendu au moins 5 explosions et plusieurs tirs en rafale. Cela faisait hier 17 ans l'assassinat du journaliste et député de Beyrouth, Gebran Tweni, lors d'un attentat à la voiture piégée dans la capitale libanaise. Un assassinat le 12 décembre 2015. Le 14 mars 2005, Gebran Tweni prononçait son serment dans lequel il appelait tous les Libanais, musulmans et chrétiens à rester unis pour l'éternité. Nous y revenons avec la journaliste franco-libanaise Randa Takieddine.
C'était le contexte de l'emprise syrienne sur le Liban et l'emprise de Bachar al-Assad et tous ceux qui appelaient à la liberté, à l'indépendance, à en finir avec ce joug syrien sur le pays, avait été assassiné. C'est une série d'assassinats et c'était Gebran Tweni, le journaliste Gebran Tweni, le journaliste Samir Kassir, tous ceux qui appelaient à la souveraineté, à la liberté, à l'indépendance. C'était cette époque-là.
Gebran Tweni qui avait lancé un appel le 14 mars 2005, un appel à l'unité.
C'est ça. Il avait appelé à l'unité des chrétiens et des musulmans pour libérer le pays, pour s'unifier. En fait, c'est la tragédie de l'attentat contre Gebran Tweni, contre Samir Kassir, contre Rafiq Hariri, tous ceux qui ont lutté contre le joug syrien et qui ont été assassinés par le régime syrien. Aujourd'hui, leur serment est franchement failli par ce qui se passe dans le pays. Le pays est complètement divisé. Il est encore sous le joug iranien et du Hezbollah. Beaucoup de partis politiques n'ont rien appris de ces assassinats et de ce que le pays a sacrifié comme jeunesse, comme liberté, comme esprit libre et esprit volontaire, comme Samir Kassir, comme Gebran Tweni, comme beaucoup d'autres journalistes qui ont été dans le monde assassinés pour la liberté de la parole et de l'écrit.
Vous nous dites que c'est un serment qui reste d'actualité aujourd'hui.
Il reste d'actualité seulement et il est trahi. Il est trahi parce que personne ne le respecte, parce que le pays est très divisé. Il est confessionnalisé, c'est tout ce qu'il avait appelé, lui, il avait appelé à l'unité entre chrétiens et musulmans. Alors aujourd'hui, le pays est très divisé.
Quelles ont été les suites judiciaires suite à cet attentat?
Je pense que, comme le dit Maurice Gourdon-Montagne dans son livre, le tribunal international pour Rafiq Hariri n'a pas été au bout de ce qu'il fallait faire. Ils n'ont pas jugé le régime d'Assad, qui est responsable en grande partie de ce crime et de ces crimes, de ces nombreux crimes. Et en fait, il est resté à des individus qui appartiennent au Hezbollah sans vraiment aller jusqu'au bout du commanditaire.
Randa Takieddine, journaliste franco-libanaise. Une conférence d'aide à l'Ukraine se tient aujourd'hui à Paris. La France entend mieux coordonner l'aide d'urgence apportée au pays. Il s'agit aussi de s'investir dans le chantier de la reconstruction de l'Ukraine, dont certaines villes sont ravagées par les combats contre l'armée russe. Une quarantaine de pays participent à cette conférence internationale. Face aux températures hivernales, plusieurs départements, dont le Rhône, le Bas-Rhin, l'Oise, l'Eure ou encore Paris, ont enclenché leur plan grand froid. Il s'agit d'héberger davantage de personnes sans abri. La mise en œuvre de ce plan consiste à ouvrir des places d'accueil d'urgence dans des bâtiments publics non prévus à cet effet, comme des gymnases ou des écoles pour les personnes sans domicile. 4 ans et demi après un match de poule en Coupe du Monde, l'Argentine et la Croatie se retrouveront ce soir à 20h. Et cette fois, l'enjeu sera beaucoup plus important. Il s'agira d'une rencontre pour une place en finale. Le vainqueur affrontera la France ou le Maroc, les Bleus et les Lions de l'Atlas qui joueront demain soir à 20h lors d'une rencontre historique et particulièrement attendue. Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi 16. À midi 30, votre journal en langue arabe. Il vous sera présenté par Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash. 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Olivier Cadic, sénateur représentant les Français établis hors de France, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, président du groupe d'amitié France-Pays du Golfe, une émission présentée par Loïc Barrière. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Orient.